Aujourd'hui, nous recevons M. Lothaire Zilliox, qui est directeur de recherche au CNRS à Strasbourg, à l'Université Louis Pasteur. Sa thèse de doctorat portait sur la mécanique des fluides et à partir de là, il s'est orienté vers l'analyse des mécanismes de pollution d'aquifères alluviaux. Depuis 1988, il est directeur de l'Institut de mécanique des fluides. En 1990, il a été nommé au Comité national de programme environnement du CNRS et à la direction de l'Institut franco-allemand de recherche sur l'environnement, ou IFAR, donc l'IFAR qui se trouve à Strasbourg. Depuis 1992, il est responsable du pôle de recherche régionale continentale, du programme Environnement, Vie et Société. Voilà, je vous remercie et je laisse la parole.
Mesdames, Messieurs, bonsoir. Tout d'abord, un grand merci aux organisateurs de m'avoir invité à ce cycle de conférences. Merci à vous toutes et à vous tous de venir si nombreux. Mais il est vrai que la qualité de l'eau est un enjeu important. Vous parlez ce soir de l'eau pour être le début, je dirais, d'une longue histoire. Pas une histoire d'eau, mais d'une longue histoire. Mais je vais essayer, dans le temps qui m'est imparti, de traiter le sujet. Donc, pollution, épuration des eaux, en 5 séquences, et en essayant d'en faire une synthèse. Alors, quand on parle des grands problèmes de l'eau dans le monde, donc je reviendrai sur le plan à chaque fois que je passe d'une séquence à l'autre. Quand on parle des grands problèmes d'eau dans le monde, on peut les ramener, grosso modo, à 5 types principaux. Les endroits du monde, il y a pénurie d'eau chronique, structurelle. Les endroits, il y a des sécheresses, des pénuries d'eau conjoncturelles. Ce soir, on s'intéressera plus aux pollutions qui sont des pénuries de qualité, les problèmes d'inondation, les problèmes aussi de maladies hydriques, érosion des sols, sédimentation. Je passe à la première séquence. Donc, je vous rappelle le plan. La qualité de l'eau, un enjeu durable. Alors je dirais que le risque, le niveau de risque que nous avons assumé au plan humain et social va dépendre de la praticabilité économique des applications de la science et de la technique, pardon, de l'adoption aussi de règles juridiques, mais aussi des efforts d'information et d'éducation citoyenne. Je pense qu'on sera en interaction pour nous informer mutuellement. Le développement traditionnel de l'économie politique reposait, il y a un certain temps, sur le compromis entre l'économique et le social. Depuis 2-3 décennies, les questions d'environnement sont venues réguler ces problèmes de contraintes par des traitements curatifs à un moment donné à la sortie, à l'aval du système industriel. Les notions de durabilité plus récentes allaient exiger une démarche plus intégrée de l'économie et du social, pour arriver à une préservation des ressources naturelles, comme l'eau, dont nous allons parler, et de protection de la santé humaine. Alors j'inscris l'ensemble de la conférence, si vous voulez, dans cette façon de voir un champ environnement-développement. Pardon. Ça marche ? Avec l'objectif qui est de rechercher une intégration maximale des trois sphères, l'homme, la nature, l'industrie, pour arriver à la durabilité à la fois écologique, économique et sociale. Alors qu'est-ce qu'on constate sur ce type de représentation? C'est que, d'une part, vous avez des interfaces repérées par les numéros 1 et les traits bleus entre ces différentes sphères où les chercheurs pratiquent de l'instrumentation pour analyser les problèmes, faire des mesures, faire des modèles, de la modélisation. Vous avez par ailleurs des ressources qui viennent de la nature qui sont envoyées vers la sphère de l'homme. Vous avez des pollutions, bien sûr, qui sont retournées par la sphère homme et la sphère industrie. Mais il y a aussi, et ça il ne faut pas l'oublier, de l'innovation technologique et de la croissance et de la création de richesses à voir entre ces deux sphères, sinon on n'aura pas les moyens de finalement régler les problèmes de pollution qui sont coûteux. Alors, l'approche va être double. L'objectif étant de gérer ces ressources en eau pour préserver durablement la qualité. Il faudra tenir compte dans la démarche de l'évolution à la fois des besoins en eau et de l'évolution de la ressource disponible. Alors, sans rentrer trop dans le détail, au niveau de l'évolution des besoins, ce qu'on pourrait appeler la demande, l'évolution des besoins est liée à la croissance démographique. Alors, pour vous donner un rapide aperçu sur le problème de la croissance démographique, je reprends dans le transparent ici, merci. Si on fait le parallèle sur la période 1940-2000, entre la population mondiale et la consommation d'eau douce, vous voyez qu'il y a une évolution parallèle, sans rentrer trop dans les détails. Et ça risque, dans les 20 prochaines années, quand on passera de 6 milliards, d'une population de 6 milliards pour la planète à 8 milliards dans 20 ans, les consommations d'eau s'en ressentiront. L'évolution des besoins est gouvernée aussi par des facteurs technologiques, besoins énergétiques et autres, et des choix de société en termes de confort, de santé, de solidarité, de survie dans certaines régions. Je dirais pour nous, nous sommes plutôt dans des choix de confort et de santé. Juste une petite parenthèse, tous les jours, au niveau de la survie concernant les problèmes de l'eau, meurent 10 000 enfants par des maladies transmises par de l'eau insalubre. Donc 10 000 enfants par jour, vous voyez que nous sommes relativement protégés dans notre secteur. Au niveau de cette illustration, peut-être juste une petite image, sans vouloir attaquer une partie de la société du tout, mais l'impact, vous verrez, sur le régime et la qualité des eaux, l'impact de quand on passe d'un paysage agricole à un autre paysage plus actuel, forcément, il y a des impacts dans ces domaines-là. La demande, voici l'offre. Donc, en ce qui concerne l'évolution de la ressource disponible, l'offre, bien que je raisonne en demande et en offre, mais il faudra surtout aller au-delà des lois du marché quand on va parler des problèmes de l'eau. Alors, l'offre va dépendre des variations climatiques. Demain, mon collègue Gérard Mégy va vous parler de ces aspects climatiques. Je ne vais pas détailler ces problèmes ce soir. De la détérioration également, l'offre dépendra de la détérioration du régime, la façon dont l'eau circule dans les différents milieux, de la qualité des eaux, la pollution, qui est notre thématique, de l'émergence de techniques nouvelles pour dépolluer, pour traiter, recycler l'eau. Il s'agira à ce moment-là des aspects curatifs pour épargner l'eau, pour protéger les milieux aquatiques. Il s'agira plutôt de niveaux préventifs. Je reviendrai un petit peu sur ces mots-clés. En ce qui concerne la ressource, je ne vais pas aller dans le détail, peut-être juste une illustration qui a son importance dans la répartition de la population mondiale. Vous voyez qu'en 2000, en gros, on peut dire que la population urbaine et la population rurale sont pour moitié-moitié au niveau de la planète. Dans 20 ans à peine, on aura 2/3 de population urbaine et 1/3 de population rurale. Ça va créer des problèmes nouveaux de gestion de l'eau et de sa qualité. Je passe à la séquence suivante. Donc, en vous rappelant le plan, et là, je vais vous présenter donc des représentations qui impliquent l'eau, et juste, à titre d'illustration, vous donner deux représentations, sans faire trop de commentaires, mais vous mémorisez ces illustrations, et tout à l'heure, on pourra poser des questions. Une première, qui est la représentation de la ressource eau de l'objet physique à l'objet perçu. Et vous verrez qu'on part d'une ressource naturelle qui nous est donnée. On parle de son renouvellement, on parle du fonctionnement de tout cet hydrosystème, je vais y venir, de l'usage et des risques associés à cette ressource eau, de la perception du risque lié à la pollution et de la valeur de préservation dans notre gestion. Cette illustration permet déjà de montrer que s'attaquer au niveau de la recherche à ces problèmes concernant la qualité de l'eau, les pollutions, l'épuration, etc., ça nous oblige à faire de la recherche transdisciplinaire, parce qu'au niveau de la ressource, du son fonctionnement, des hydrologues, des géographes sont actifs, mais au niveau de l'usage et des risques associés, il faut déjà aller vers des sociologues qui nous aident à percevoir le risque lié à la pollution, et les économistes ne manquent pas non plus. Et il y aura les juristes, il y aura bien sûr toute la panoplie des sciences humaines et sociales qui doit travailler avec les physiciens, les chimistes et les biologistes. Transdisciplinarité scientifique, donc, pour résoudre ces problèmes. L'autre illustration, si vous vous souvenez du plan, l'autre représentation, c'est la représentation d'un hydrosystème continental. Alors, il est vrai que dans la façon dont nous gérons la ressource eau et tous les problèmes qui tournent autour de l'eau, bien souvent, on a tendance à vouloir gérer un morceau de rivière sur le banc d'une commune, à gérer un puits de captage d'eau souterraine, à gérer les pluies acides, par exemple. Je crois que l'approche qu'il faut voir, et ça va conditionner l'ensemble de nos réactions et de nos attitudes vis-à-vis de ces problèmes de l'eau, c'est considérer l'hydrosystème continental comme un tout avec les eaux de précipitation, les eaux qui tombent sur le sol, les eaux de surface, les rivières, les cours d'eau, l'eau du sol, l'eau qui s'infiltre dans le sol, et l'eau souterraine qui forme les nappes phréatiques. Et je crois que ce n'est que par cette représentation de l'hydrosystème continental qu'on pourra effectivement résoudre les grands problèmes liés aux enjeux de l'eau et de sa qualité. Il s'agit donc de préserver le cycle de l'eau. L'eau est indispensable à la vie, je pense que si vous êtes là ce soir, c'est que vous en êtes convaincu. Sa pollution et sa raréfaction sont aujourd'hui reconnues. On n'est plus, il y a 30 ans, il fallait encore expliquer qu'il y a dans certains cas et dans certaines situations géographiques des problèmes de pollution. Aujourd'hui, tout le monde le reconnaît. Mais je crois que la méconnaissance de la manière dont l'eau circule sur la Terre et sous la Terre, dans cet hydrosystème, je reviendrai souvent à l'hydrosystème, dans l'océan et dans l'atmosphère, est en grande partie responsable de la situation actuelle. Troisième séquence. Donc, je vais maintenant vous parler, d'après le plan, de la partie numéro 3, où je vous parlerai de sources et de mécanismes de pollution de l'eau, des pollutions de l'eau, l'origine des pollutions, des mécanismes de pollution illustratifs, avec deux exemples que je prendrai. D'une part, la pollution par les produits pétroliers et la dispersion hydrodynamique de substances qui peuvent être miscibles. Alors, je crois là, au-delà, je dirais, des flux de pollution, se posent des problèmes de l'accumulation des polluants dans les compartiments de l'hydrosystème, tel qu'on l'a vu tout à l'heure, la partie précipitation, donc eau de pluie acide, dans la partie eau de surface, eau du sol et eau du sous-sol. Et tous ces aspects-là sont à prendre en compte. Et ces accumulations sont très souvent avec des conséquences qui sont encore inconnues parce qu'elles apparaissent graduellement dans le temps. Même au niveau de la recherche, il y a encore beaucoup de travail à faire dans ce domaine. D'un compartiment à l'autre de l'hydrosystème, les durées de séjour de l'eau varient en moyenne de quelques jours dans l'atmosphère, à quelques semaines dans les cours d'eau, des décennies, voire des siècles, pour ce qui est la durée de séjour de l'eau dans les aquifères du sous-sol. Et ces durées de renouvellement ont un impact fondamental sur la persistance des pollutions. Et la détérioration de la qualité des eaux souterraines peut même devenir irréversible dans certains cas. Alors, les sources de pollution, on peut faire là une représentation de l'hydrosystème de cette façon-là. Vous avez les principaux réservoirs terrestres, l'atmosphère, biosphère, pédosphère, hydrosphère, donc l'image de l'hydrosystème de tout à l'heure. Je ne sais pas si vous vous souvenez, je vais peut-être vous le... Pardon, excusez-moi. Donc, cet ensemble de systèmes, hein, où l'homme est dedans, avec son habitat, avec la vie animale, la vie biologique, avec ses industries, ses activités, aussi les puits de captage d'eau. Donc, dans le contexte de cet hydrosystème, à chaque fois qu'il y a quelque part une source de pollution, tous les compartiments peuvent être atteints par le polluant. Vous avez ici une illustration schématique qui montre que les sources de pollution peuvent atteindre les matières en suspension, les sédiments dans les cours d'eau. Ça aura des répercussions sur les eaux de surface, sur les eaux souterraines. Des sources peuvent aller directement dans le sol, mais quand un produit s'infiltre dans le sol, il peut passer dans les eaux de surface, dans les eaux souterraines, dans les eaux de surface. Sont concernés tous les organismes vivants. Et bien sûr, s'il y a des pluies acides ou des brouillards, des aérosols contaminés par des substances qui peuvent nuire à notre santé au niveau des précipitations, c'est tout cet ensemble-là. À chaque fois qu'il y a un déséquilibre dans un des compartiments, c'est l'ensemble de l'hydrosystème qui sera en déséquilibre. Et je crois que ça, c'est quelque chose de très important à retenir. Pour vous donner une illustration de la représentation, on le verra tout à l'heure, je proposerai une petite vidéo à la fin de la conférence, avant que vous posiez des questions. On a donc la possibilité d'avoir une représentation schématique de l'aquifère souterrain avec toutes les activités humaines à la surface, avec les possibilités donc de l'infiltration dans le sol, de l'écoulement horizontal de la nappe phréatique, un substratum qui est imperméable. Et sur le film, vous verrez tout à l'heure ce qui se passe dans le fossé rhénan entre Bâle et Mayence. C'est un réservoir d'eau souterraine considérable dont nous avons à traiter. En ce qui concerne donc les exemples de pollution dont j'ai parlé, peut-être juste avant de passer aux exemples... Pardon, je peux vous laisser ça. Merci. Un tableau, mais je ne sais pas si c'est très visible du fond de la salle. Ça va être difficile. Bon, ce qui est important ici, c'est, avant de passer au mécanisme que je vais illustrer, c'est un tableau qui donne les principales causes de pollution des eaux. D'une part, les types de pollution, des pollutions physiques, thermiques ou radioactives, par exemple, des pollutions chimiques, avec toute une panoplie de types de pollution. Les hydrocarburissons, ça sera mon exemple suivant, et ensuite je parlerai d'un autre cas. Les types de pollution organique et microbiologique, la nature des différentes substances qui sont prises en compte dans ces types de pollution et les différentes sources. Je vous ai déjà présenté tout à l'heure le transparent qui permet de dire, en partant d'une source, on peut atteindre l'ensemble des compartiments d'hydrosystème. Alors, un des exemples choisis, c'est le problème de la pollution par l'infiltration ou l'émission accidentelle de produits pétroliers. Je crois qu'une telle illustration, une telle représentation concernant la pollution par les produits pétroliers de sol et d'eau souterraine qui peuvent atteindre un captage d'eau potable, qui serait situé ici, vous le vivez au quotidien. Je crois que ça se passe de commentaires. Tous ces sites, que ce soit des problèmes d'accidents de transport, que ce soit des sites industriels au niveau d'une raffinerie, que ce soit des stations-service, ou que ce soit même dans l'habitat individuel ou collectif, peu importe, des réservoirs enterrés, tous ces problèmes sont des situations à risque concernant les mécanismes de pollution par des produits pétroliers. Globalement, les produits pétroliers sont des produits qui ne sont pas miscibles à l'eau, mais ce sont des mélanges complexes de nombreux composés hydrocarbonés, et c'est un certain nombre de ces composés qui sont solubles dans l'eau et qui donc nous donnent des traces dissoutes qui sont véhiculées par la circulation de l'eau souterraine, en général dans des aquifères alluviaux de l'ordre de quelques mètres par jour, puisque la vitesse de circulation de l'eau souterraine est de l'ordre de grandeur du mètre par jour. Un autre exemple d'illustration, où je ne vais pas vous projeter des équations, ce n'est pas l'endroit, je pense, mais je vais essayer de vous expliquer de façon illustrée cette approche. Imaginez que vous ayez ici une source, une fuite quelque part d'un réservoir enterré, une source de contaminant. Cette fois-ci, ce n'est pas un produit pétrolier, c'est une substance qui est totalement miscible à l'eau. Vous pourrez y mettre, par exemple, des nitrates, vous pourrez y mettre des pesticides, d'autres solvants chlorés, etc. où des traces passent dans l'eau et sont ensuite véhiculées par un courant de la gauche vers la droite, oui, c'est bien ça, qui est la direction de l'écoulement de nappe. Qu'est-ce qui est important ? C'est d'une part de constater que les mécanismes hydrodynamiques donnent à partir de la source de contamination dans un aquifère des profils de concentration qui évoluent de cette façon-là. Mais ce qui est important, c'est de pouvoir se dire, quand on a une concentration limite, qui serait une valeur de concentration d'un produit toxique, une norme qu'il ne faudrait pas dépasser, à ce moment-là, il est important, dans la modélisation simpliste de ce type de problème, de montrer quelle est la portée maximale, x distance O, x égale grand L, la portée maximale d'une telle pollution. Alors, le modèle simple choisi de dispersion dynamique permet de calculer cette portée maximale, en prenant en compte uniquement les phénomènes hydrodynamiques. Bien sûr, ensuite, il faut rajouter des problèmes de sorption ou des problèmes de dégradabilité des substances dans le sous-sol, mais quand on applique uniquement le modèle hydrodynamique, ben, on sera toujours du côté de la sécurité. Et dans certaines conditions, mais sans trop vouloir vous donner des formules, je préfère parler par l'image, on est capable, donc, quand on a défini une telle norme, d'obtenir l'expression de la portée maximale avec une relation numéro 3, ici. Bien sûr, ce que je vous montre là, tout à l'heure, sur un plan, il faut le voir dans l'espace à trois dimensions et le voir de révolution autour de cet axe d'entraînement de polluants. Ceci simplement pour vous faire comprendre que dans les différents mécanismes qu'étudient les chercheurs au laboratoire, il y a des modèles qui permettent déjà de trouver un certain nombre de solutions pour comprendre l'évolution des pollutions. Peut-être juste sans équation et sans détail, mais vous montrer juste un petit peu ce qui, au niveau des mécanismes de base, donne lieu à ces phénomènes de dispersion à l'échelle de quelques grains. Imaginez, entre deux grains de sable du sous-sol, vous avez des profils de vitesse. Entre les différents grains sont séparés par des petits canaux de plus ou moins grand diamètre. Vous avez des bulles d'air qui peuvent être présents, qui piègent de l'eau stagnante, etc. À d'autres échelles, vous avez d'autres mécanismes dus aux hétérogénéités du sous-sol. Tous ces mécanismes-là, bien sûr, sont à intégrer dans l'illustration simple que je vous ai donnée tout à l'heure concernant l'évolution d'une pollution miscible à partir d'une source ponctuelle. Alors, les questions que se pose le chercheur, c'est de savoir si on dispose de toutes les connaissances qui permettent de passer de l'analyse du transfert du polluant vers une nappe dans des conditions de transport déterminé, et si on est capable de trouver une représentation qui permet d'accéder à un modèle prévisionnel pour savoir est-ce qu'on a l'outil le jour où il y a un accident, est-ce qu'on connaît bien le milieu, est-ce qu'on a l'outil qui permet de dire voilà un accident et voilà les suites à ce risque accidentel, et s'il y a à l'aval un puits de captage d'eau potable pour la population de cette région, de savoir si oui ou non il y a un risque de contamination de ce puits de captage. Voilà un petit peu ces aspects concernant la séquence numéro 3. Si vous me redemandez tout à l'heure de trouver un transparent, ça va être délicat, mais je pense que je trouverai des réponses à vos questions, même si je ne trouve pas mes transparents. Quatrième séquence. Les eaux prélevées. Alors donc, on vient de parler de la qualité de l'eau, enjeu durable, avec les trois sphères, l'homme, l'industrie et la nature. Si je prenais des mots savants, je parlerais d'anthroposphère, de technosphère et de biosphère. Mais l'homme, l'industrie et la nature, je crois, ça, c'est assez facile à comprendre. Les représentations, vous vous souvenez de cette espèce de spirale de la ressource vers l'objet et la pollution telle qu'on la ressent. La représentation de la dynamique de l'eau, qui est l'idée de l'hydrosystème, qu'on ne peut pas séparer la gestion d'un compartiment d'hydrosystème de la gestion d'un autre compartiment, et que c'est une gestion intégrée qu'il faut imaginer. Et administrativement parlant, ce n'est pas évident. Je vous ai parlé des sources et mécanismes de pollution de l'eau, des pollutions, l'origine des pollutions et quelques mécanismes illustratifs, dont l'illustration de la pollution par des produits pétroliers. On va maintenant parler des eaux en général, l'eau, son origine, sa composition, mais les eaux, on les prélève pour pouvoir les distribuer aux consommateurs. On les utilise, nous sommes tous usagers de l'eau. Ensuite, nous les rejetons, il faut les épurer. Et quand c'est le milieu naturel qui est pollué, il faut essayer de dépolluer. Donc, je vous parlerai aussi de l'eau prélevée, où je donnerai quatre usages. On pourrait imaginer d'autres catégories, mais je parlais de l'eau potable, de l'eau pour les procédés industriels, l'eau pour l'agriculture, les eaux hospitalières. Je pense que c'est intéressant de distinguer ces cas. Alors, là, bon, ce transparent, il n'est pas dans le bon sens. Mais les composants de l'eau. Alors, l'eau contient, à l'état naturel, mais je crois que ça, vous le savez quasiment tous, toutes et tous, hein, des sels, des gaz dissous, des matières en suspension, des organismes vivants. Ça veut dire que l'eau n'est pas un produit du commerce, comme parfois on veut nous le faire croire. L'eau est quelque chose de vivant. Alors, les critères d'eau potable, il y a 60 critères dans les analyses fondamentales, etc. Je ne vais pas vous projeter un tableau avec les 60 critères. En fait, ce qu'on demande à l'eau quand elle est potable, c'est d'être dépourvue de matière organique, d'être faiblement minéralisée, d'être oxygénée, dépourvue bien sûr de germes pathogènes, et en plus d'être limpide, incolore, fraîche et inodore. Vous imaginez facilement que quand aujourd'hui on va dans certaines régions du globe où les gens ont l'habitude de boire de l'eau qui est colorée, de l'eau qui a une odeur, qui n'est pas forcément fraîche et limpide, il y a tout un aspect culturel aussi qu'il faut prendre en compte quand on parle d'épuration, de pollution et d'épuration et de consommation d'eau. Alors sans rentrer dans le détail des différents traitements pour épurer l'eau, pour la préparer à la consommation, pour l'épurer avant de la rejeter dans le milieu naturel. Je ne sais pas si vous avez la possibilité de voir ce tableau. Il sera dans le texte qui sera publié. Mais simplement pour vous dire que les procédés de la technologie pour les eaux sont des procédés du même style sont utilisés pour préparer l'eau prélevée dans la nature, la rendre potable et nous l'apporter à nos robinets. Soit que ce sont les mêmes procédés globalement, mais avec certaines finesses d'application qui sont utilisées pour l'épuration, pour le traitement de l'eau au niveau des rejets. Alors, tous ces procédés, évidemment, qu'ils s'appellent flocculation, coagulation, filtration par membrane, échange d'ions, élimination tel produit ou tel autre, sorption sur charbon actif, tous ces procédés sont à base de mécanismes physico-chimiques aux interfaces liquide-fluide, ceci pour simplement vous montrer que ce que la station d'épuration permet de faire, il y a à l'amont de la recherche de base pour arriver à mettre au point toutes ces technologies. Et je crois qu'une illustration parlera mieux que tout ce que je pourrais vous dire sans images. J'ai pris une illustration très... pas si ça passe bien. Donc, l'illustration, c'est l'eau de la terre au verre. Donc, quand l'eau est prélevée, soit dans une nappe d'eau souterraine, soit dans une rivière ou collectée autrement, il faut qu'elle passe par une usine de traitement de l'eau, hein, ce que j'appelle le traitement au moment de la préparation d'eau potable, avec différentes étapes, qui sont d'abord un tamisage, un dégrillage, ensuite une préchloration ou une pré-ozonation, pardon, des réactifs chimiques qui permettent de coaguler un certain nombre d'éléments, ensuite de les décanter, une chloration également pour détruire tous les germes nocifs, une filtration sur sable, sur lit de sable ou sur charbon actif, et ensuite une faible chloration pour permettre de stocker l'eau dans des châteaux d'eau, etc., et n'avoir plus aucun risque avant que cette eau potable soit distribuée aux agglomérations. Bien sûr, les rejets sont ensuite épurés dans les stations d'épuration avant de revenir au milieu naturel. Les différentes étapes, ici, on pourrait les appeler des étapes classiques de traitement de l'eau, telles que ça se pratique un peu partout et depuis un certain nombre d'années, voire de décennies. des situations plus récentes, au point de vue technologie, sont les problèmes du traitement membranaire, où, à travers des membranes, vous avez ici une représentation simplifiée, on a l'eau brute qui circule d'un côté de la membrane, de l'autre côté, on veut recueillir l'eau épurée, et donc on a des membranes qui sont perméables aux molécules d'eau, mais qui sont imperméables à des particules, à des molécules, à un certain nombre de substances indésirables, telles que vous le voyez sur cette illustration. Alors, pour aller un peu dans le détail, vous avez ici la même illustration que tout à l'heure, et on parlera de fonctionnement de procédés de séparation par membrane, avec, en fonction de l'échelle en millième de millimètre que vous avez ici, des possibilités de retenir des bactéries, des parasites, des colloïdes, des virus, des macromolécules organiques, des substances organiques et même des sels dissous. Les nouvelles technologies membranaires sont aussi utilisées pour dessaler, par exemple, l'eau de mer, là où il n'y a pas d'eau douce pour la consommation. Et on a donc un nouveau procédé de séparation. Ça coûte encore relativement cher par rapport à la distillation classique pour fabriquer de l'eau douce à partir de l'eau salée. Alors, bien sûr, pour l'eau potable, on enlèvera les bactéries, on enlèvera les parasites, donc on fera de la microfiltration. Quand on va dans l'ultra ou la nanofiltration, l'osmose inverse, je dirais, on est déjà dans le secteur des eaux de confort. Et je vous ai dit au début que dans notre pays et dans nos régions, c'est plutôt un aspect eau de confort qu'il faut prendre en considération. Les eaux résiduaires, j'en ai parlé au moment de l'illustration d'une station d'épuration, très rapidement, mais je crois que ce qui est important dans ces catégories, c'est de se rendre compte que les eaux résiduaires comprennent les effluents urbains, des effluents industriels et des effluents agricoles. Et ce qu'il est important de retenir, c'est que des rejets d'eau résiduaire non régénérés dans des compartiments de l'hydrosystème auraient une triple répercussion. C'est pour ça qu'on pousse, enfin, les agences de l'eau françaises financent des stations d'épuration, parce que si on rejetait des eaux résiduaires non régénérées, il y aurait d'une part la dégradation de l'écosystème et la destruction des capacités d'auto-épuration du système naturel du milieu, ce qui mettrait en danger la santé écologique. La consommation également en qualité d'une ressource vitale pour l'eau qui porterait atteinte à la santé humaine, et puis la disparition d'une matière première exclusive, l'eau, ou du moins un surcoût pour l'adapter aux besoins des producteurs et fabricants comme des distributeurs d'eau, menacerait la santé économique. Donc on est vraiment dans un système, souvenez-vous au début les trois sphères, je pourrais aussi le représenter sous forme d'un triangle, où quand on veut s'attaquer à ces problèmes d'environnement et de développement durable, notamment ce qui concerne l'eau et sa qualité, il faut prendre en compte à la fois la santé humaine, il faut prendre en compte la protection des milieux et des ressources, et il faut prendre en compte également le développement économique. Malheureusement, bien souvent, dans des débats et même dans des actions, on se rend compte que deux côtés seulement du triangle sont pris en compte, et non pas les trois. Les gens qui sont dans la direction écologique, bien sûr, personne n'oublie la santé humaine, mais ils insistent beaucoup sur la protection des milieux et des ressources. Les gens du système productif insistent beaucoup sur le développement économique, bien sûr, sur la santé humaine, mais s'ils ne prennent pas en compte dans leur façon d'agir la protection des milieux, on ne s'en sortira pas. Donc, la base de notre organisation sociale doit être la base indiquée sur ce type de triangle. Je pourrais faire des commentaires sur ce triangle encore longtemps, mais le temps passe et je ne voudrais pas en abuser. Quand on arrive à l'action sur le terrain, quand on est devant une situation de pollution accidentelle du sol et du sous-sol, il faut bien se rendre compte que la première chose à faire, c'est des mesures préventives. Prévenir vaut mieux que guérir, il y a bien longtemps qu'on le dit, parfois on l'oublie quand il s'agit de gérer les ressources en eau. Donc, mesures préventives, je ne vais pas les détailler, vous aurez ça aussi dans le document écrit qui sera donc plus accessible à ce moment-là, parce que là c'est un peu dense, et c'est même très dense. Donc des mesures préventives afin d'éviter l'émission de contaminants dans l'eau, dans les sols et dans le sous-sol au niveau des aquifères. Première chose, hein, c'est d'éviter de déverser. Quand l'accident est arrivé, hein, quand il y a eu un déversement accidentel, il faut intervenir immédiatement, minimiser l'infiltration des produits. Ensuite, il faut agir à la source de pollution, avant même que, vous vous souvenez de cette zone un peu elliptique de tout à l'heure, hein, cette zone de dispersion du polluant. Donc, agir à la source de la pollution, éviter la dispersion du polluant. Là, un certain nombre de méthodes sont pratiquées. Il faut traiter, quand la pollution s'est déjà dispersée, a été entraînée dans le milieu naturel par la circulation de l'eau, il faut essayer de traiter ces panaches de pollution, où il y a des traces dissoutes qui, pour certaines substances, peuvent être toxiques, et réduire les concentrations dans le domaine contaminé, à l'aval de la source, tel que je vous l'avais montré tout à l'heure. Ensuite, on a des possibilités de protection hydraulique des ouvrages de captage d'eau souterraine pour la fabrication de l'eau potable. Et là, bien souvent, quand on est devant un problème de pollution d'un puits sur un champ captant, la tentation, c'est dire voilà, l'eau que je pompe, que je soutire dans ce puits, étant polluée, j'arrête le fonctionnement de ce puits. Et là, on va créer la pollution qui ira vers d'autres puits voisins. Donc, quand on a un problème de champ captant, il faut utiliser le puits contaminé et l'utiliser pour décontaminer l'eau du sous-sol. Donc, tout un problème de gestion qui est aussi un problème souvent délicat à traiter. Et enfin, il y a un certain nombre de mesures techniques pour fournir durablement de l'eau potable aux consommateurs. Il faut traiter l'eau brute prélevée, telle que je vous l'indiquais tout à l'heure. Il faut, dans certaines situations, malheureusement, quand il n'y a pas d'autre solution, il faut mélanger des eaux prélevées dans des sources différentes et pratiquer un système en réseau régional pour approvisionner une collectivité en eau. Le tableau paraît complexe ici parce qu'il est difficile à lire, mais il est complexe aussi dans son application. Il y a beaucoup de technologies et il est très important qu'on soit conscient de tous ces aspects. Pourquoi je vous parle de sites pollués et de d'épuration et d'action sur des sites contaminés? Tout simplement, si je prends en 96 un tableau publié par l'Institut français de l'environnement qui a fait l'inventaire de 895 sites pollués en France, on se rendait compte que les hydrocarbures, avec les hydrocarbures polyaromatiques et des solvants halogénés, donc des produits pétroliers à la base, vous voyez que le plus grand nombre de sites contaminés proviennent effectivement de la dominante produit pétrolier. Les autres sites inventoriés ici sont des sites contaminés par des micropolluants métalliques essentiellement. Donc vous voyez, le problème est un problème important. Je viens de Strasbourg, je ne voudrais pas faire une mauvaise publicité pour l'Alsace, mais je connais un peu mieux les problèmes régionaux. Et voilà ce qu'avait titré le journal en 1994, au moment où ces inventaires de sites pollués ont été faits, c'est que l'Alsace n'était pas bien notée du tout. Ben bon, si je regarde dans le nord, il y a encore plus de sites contaminés. Mais vous voyez, quand on voit une carte de France, je ne sais pas si c'est bien visible, voilà, une carte de France ici, vous voyez le nombre de sites contaminés, et surtout les régions, hein, les régions qui sont ici en noir, où il y a, par département, plus de 10 sites contaminés à traiter. Et ceci a été l'inventaire en 1994. Je peux vous dire que l'inventaire aujourd'hui fait augmenter sérieusement le nombre de ces sites contaminés. On en découvre quasiment tous les jours. On va arrêter pour cette quatrième séquence. Je ne vous ai pas parlé du détail entre les eaux industrielles, les eaux agricoles, les eaux hospitalières, mais je pense que vous connaissez tous la nécessité, par exemple, d'avoir de l'eau ultra pure pour le milieu hospitalier, pour traiter les grands brûlés ou par exemple pour la dialyse. Vous êtes aussi conscient que l'eau dans l'agroalimentaire est une ressource fondamentale et que par exemple, je vais encore prendre un exemple régional alsacien, où il y a encore des brasseries qui fabriquent de la bière française. Pour faire de la bonne bière, il faut également une eau dont le contenu en minéraux soit bien contrôlé. J'en arrive à la conclusion. Donc voilà le plan. On a balayé les quatre séquences ici. L'eau en question. L'eau en question, c'est parce que j'ai quelques questions à poser pour la suite de notre façon d'agir dans ce domaine-là. Les limites actuelles, je dirais en guise de conclusion, avant de passer à la petite vidéo, les limites actuelles d'un développement durable dans un environnement viable pour une eau de qualité sont celles qu'imposent, d'une part, l'état de nos techniques, à base de recherche et de technologie, aussi l'état de notre organisation sociale, éducative et culturelle, et également celle qu'impose la capacité de la biosphère, du milieu naturel, à digérer les pollutions résultant d'activités humaines. Même s'il y a beaucoup de stations d'épuration et qu'on traite l'eau qu'on rejette dans le milieu naturel, il y a encore des pollutions. Et puis l'épuration n'est pas à 100%. Et donc il faut bien voir qu'on ne détruise pas complètement la capacité de la biosphère à s'auto-épurer, comme elle a pu le faire il y a quelques décennies quand les activités humaines n'avaient pas rejeté autant de pollution dans la nature. La recherche et la technologie fournissent des solutions pour résoudre les problèmes, on vient de le voir, que ce soit pour le traitement des ressources en eau brute, la façon de les prélever, la façon de les préparer pour notre consommation domestique, à les distribuer aux différents usages de l'eau, industriels, agricoles, etc. Mais si la recherche et la technologie fournissent un certain nombre de réponses, nous sommes aussi devant un certain nombre d'interrogations. Il reste des interrogations fondamentales au niveau de l'organisation de la société, je vais le dire avec vous, pour assurer une gestion durable de l'hydrosystème continental. J'en ai relevé trois, il y en a beaucoup d'autres. La notion du temps constitue une première interrogation. Comment expliquer le temps écoulé entre le déclenchement d'une pollution, accidentelle, la plupart du temps, sa détection, puis la décision d'intervenir pour dépolluer. Comment expliquer aussi le temps décalé entre l'événement de pollution physique et la réponse administrative, voire juridique, qui est donnée et qui est souvent donnée avec beaucoup de retard. Un petit exemple, Erstein en Alsace est sûrement connu pour le sucre, d'Erstein, s'il y a des gens qui connaissent, mais Erstein est aussi connu parce qu'un accident de transport de tétrachlorure de carbone, qui est un solvant utilisé, l'accident s'est produit en 1970, dans un virage au bord d'une route. Le résultat de l'expertise à l'époque était rien à signaler. 20 ans après, à 7 km en aval, un puits a été contaminé. Et il se trouve que c'était dans la localité d'Erstein. Donc Erstein est devenu célèbre, non pas seulement pour son sucre, mais aussi pour sa contamination de l'eau potable. Le choix, deuxième type d'interrogation, le choix d'un mode d'action constitue cette deuxième interrogation. Où va-t-on appliquer la protection de l'eau? Va-t-on être préventif ou curatif? Pas si ça c'est visible, si, ça doit être bon. Donc, où appliquer des mesures de protection des eaux? Vous avez ici tout le champ des activités humaines, industrielles, agricoles, domestiques, enfin tout ce qui peut nous faire travailler. Ces activités créent des déchets. Des déchets sont produits. Ces déchets sont gazeux, partent dans l'atmosphère, ils sont liquides, ils vont dans l'eau, le sous-sol, etc. Ces déchets sont solides, il faut les stocker. Ensuite, les pluies arrosent les décharges. Et puis finalement, ces déchets, on les traite, mais il y aura toujours un stockage ultime qui va vers l'atmosphère, qui va vers le sol, qui va vers les eaux. Alors, il y a deux façons d'agir. Si nous agissons au niveau C et D, donc de la production de déchets et du stockage, ben, on traitera les déchets, on traitera l'eau, donc on sera à traiter les symptômes, on sera au niveau curatif. Mais je pense qu'il est beaucoup plus indiqué d'éliminer les causes. Évidemment, ça va nous demander beaucoup d'imagination. Il faudra changer de type d'activité si on veut traiter dès le niveau A, ou alors réduire les déchets, ce qui va aussi nous demander à peut-être transformer même jusqu'à nos mentalités. Donc il y a beaucoup de solutions, à nous de choisir les bonnes solutions, et ça ne va pas toujours de soi. Donc ceci pour remettre finalement sur le tapis hein, le transparent de départ, qui est bien de montrer que si nous ne sommes pas capables dans notre société d'aujourd'hui de faire la liaison et l'intégration de ces trois sphères constituées par l'homme et les sociétés humaines, la nature avec les milieux, les ressources qu'elle nous donne, que nous perturbons, l'industrie avec tous les procédés de fabrication, l'incidence de technologie et des systèmes de réglementation, hein, puisqu'il faut aussi réglementer, si nous ne sommes pas capables de faire tout ça, je pense qu'on aura beaucoup de difficultés pour gérer l'eau et sa qualité dans les années qui viennent. Un petit clin d'œil avant de vous remercier de votre attention. Un petit clin d'œil au niveau mondial. Si je regarde, là on peut peut-être zoomer un petit peu, voilà. Si je regarde au niveau de la pollution de l'eau, la succession des problèmes sur deux siècles, dans les pays fortement industrialisés, en France par exemple, hein, nous avons à peu près en 1925, par là, nous sommes arrivés à faire fléchir la courbe de la pollution domestique, hein, donc celle que nous rejetons dans notre vie quotidienne. La pollution industrielle, autour des années 1950, a trouvé des solutions qui ont permis de faire diminuer les pollutions industrielles. Quand vous lisez eutrophisation, c'est en gros la pollution agricole. Nous sommes à une période où on peut parler de pollution agricole vaincue dans pas mal de secteurs, mais bien sûr, il faut maintenant faire baisser la courbe. Par contre, les gros problèmes qui restent, c'est les problèmes de micropolluants, que ce soit des micropolluants organiques, des micropolluants métalliques, etc. Ce problème, nous l'avons encore à résoudre. Il n'y a aucun scientifique, à mon avis, aujourd'hui, qui peut vous dire si du mercure s'est fixé dans les sédiments d'un cours d'eau, à partir de quel moment, à partir de quel taux de fixation, il y a relargage possible, surtout quand la qualité de l'eau de la rivière change. Mais ça, c'est pour nos pays, à nous. Hein. Donc vous voyez qu'on a mis plus d'un siècle pour résoudre un à un les quatre types de pollution. Quand on se met maintenant dans la configuration d'un pays en voie de développement d'industrialisation rapide, vous pouvez prendre le Brésil, vous pouvez prendre la Chine, hein, ces pays vont se trouver en 2000 quasiment au stade où les quatre types de pollution sont à... il faut leur trouver des solutions en même temps. Est-ce qu'ils en ont la capacité financière, économique, technologique? S'ils ne l'ont pas, est-ce que nous sommes prêts à les aider? Voilà autant de questions. Je n'évoquerai les pays en voie de développement lent, hein, qu'ils soient dans certains milieux asiatiques ou certains milieux d'Amérique du Sud ou d'Afrique, où on n'a pas encore trouvé toutes les solutions pour traiter les problèmes de pollution domestique. Donc voilà une approche globale, à mon avis, qui est importante. Et tout en vous remerciant déjà de votre attention, mais en vous disant, attention, il y a encore quelques minutes de film, permettez-moi d'utiliser juste un mot de Jacques Prévert. Alors on peut peut-être zoomer là-dessus, ça se verra mieux. Voilà, il y a une maman avec son petit enfant là qui est dans un cours d'eau dont je ne connais pas la qualité. Voilà, usiner, tamiser, user, rapiécer, égoutter, dégoûter, les eaux se jettent à l'eau. Merci.
Eau vive, symbole de vie et de pureté, eau vive que l'on sait menacée un peu partout, elles ont ce mérite, une fois polluées, de ne pas cacher leur état. Elles font néanmoins un peu figure d'arbres qui cachent la forêt quand on envisage l'ensemble des ressources en eau auxquelles les activités agricoles, industrielles ou domestiques font appel. Ici en Alsace, c'est très largement la nappe phréatique qui les alimente, une nappe à l'équilibre fragile et dont la fonction de filtre n'est pas extensible à l'infini. Les gravières sont quasiment les seuls points où la nappe est directement visible. Elle renforce sa vulnérabilité. Certes, la ressource est ici inépuisable, pour ainsi dire, et sur de vastes secteurs, l'eau souterraine peut encore être distribuée sans traitement. Mais la nappe est généralement proche du sol, la perméabilité du sous-sol importante souvent, et les polluants avérés ou potentiels sont nombreux. La nappe phréatique rhénane dans son ensemble constitue la plus importante ressource d'eau potable d'Europe, environ 300 milliards de mètres cubes d'eau sur 12 000 km². Sur cette surface, la dégradation de l'eau est critique par endroits et les perspectives peuvent parfois inquiéter. Nous sommes ici à Strasbourg, à l'IFAR, l'Institut franco-allemand de recherche sur l'environnement, dont le directeur se préoccupe de la nappe depuis quelques 25 ans.
Nous avons reconstitué une nappe phréatique de la façon suivante. Dans ce bassin donc, de la taille d'une piscine, nous y avons mis du sable et du gravier. Et ce sable et gravier, on l'a imbibé petit à petit par le fond avec de l'eau. Et cette eau circule à des vitesses qui sont tout à fait les vitesses de circulation réelle. Donc sur un milieu granulaire simplifié, nous avons reconstitué un véritable site où il y a de l'eau souterraine telle que ça se passe dans la nature.
C'est à cet outil, notamment, que l'on doit de mieux connaître les mécanismes complexes qui président aux pollutions dont la nappe, mystérieuse car souterraine, est victime.
Un polluant qui a pénétré dans la nappe phréatique va se déplacer à la vitesse de quelques mètres par jour. Et forcément, d'abord, ce n'est pas visible. Dans une rivière, quand elle est contaminée, les poissons nagent le ventre à l'air. Ici, vous ne voyez rien du tout. Et ce n'est qu'au bout de, souvent, de quelques années que sur un captage d'eau potable qui se trouverait en aval du lieu de l'accident, qu'on voit l'arrivée de quelques contaminations. Et là, je dirais, c'est déjà un peu trop tard.
Le principal polluant de la nappe phréatique rhénane sur sa partie française, on le connaît bien, c'est le sel, rejeté par l'exploitation des mines de potasse qui vivent leurs dernières années d'activité. En l'absence de pollution, les teneurs en chlorure sont inférieures à 50 mg par litre d'eau. Sur les parties oranges de la carte, elles atteignent 100 à 200 et sur les parties rouges, plus de 200 mg par litre. Mais au moins, cette pollution-là, on sait aujourd'hui la traiter et on s'y emploie. Ces terrils ont été constitués avant 1934. Le sel dont ils sont chargés a longtemps infiltré la nappe. Aujourd'hui, on accélère la fonte des terrils en les arrosant d'eau que l'on récupère soigneusement. Explication du directeur de l'environnement aux mines de potasse d'Alsace.
L'eau est pompée dans un puits qui est situé au pied du terril et qui en même temps sert de puits de dépollution de la nappe. Il pompe dans la nappe qui est déjà salée et on va le saler encore plus en arrosant les terrils et ensuite cette eau va aller directement vers le rhin. Avec le traitement des terrils, nous coupons la source d'alimentation de la nappe en pollution. La deuxième action consiste à aller rechercher dans la nappe le stock qui s'y trouve déjà. Donc on va pomper dans les zones les plus salées pour aller récupérer du sel qui se trouve déjà dans la nappe.
Depuis 1934, le sel est directement évacué des mines vers le Rhin lui aussi. Ni les mines ni ces terrils ne polluent donc plus la nappe. Les chlorures récupérées et celles encore produites sont toutes collectées dans ce fossé qui évacue en moyenne et par heure 4000 mètres cubes d'eau sale vers le grand fleuve. C'est un moindre mal. La pollution est contrôlée et plafonnée à 200 mg de chlorure par litre d'eau du Rhin. La coopération transfrontalière est mieux connue pour ce fleuve que pour la nappe rhénane. L'Europe intervient pourtant, par exemple en contribuant au financement de l'élimination des terrils ou en fixant des normes anti-pollution. Mais c'est encore dans la recherche que la coopération est la plus marquée, comme en témoigne le patron de l'association administrative qui gère la nappe côté français.
La nappe phréatique, elle est une entre les Vosges et la forêt noire et le Rhin fait juste une petite virgule dans la surface de la nappe. Donc, alors nous avons commencé déjà à interchanger des informations de prélèvement, des interprétations que nous avions et nous sommes rendus compte que des données de mesure interprétées par des Allemands n'étaient pas tout à fait les mêmes que ceux interprétés de notre côté.
Et pour cause, longtemps les Allemands ont pris pour référence le niveau de la mer du Nord, les Français celui de la Méditerranée, pour établir leur carte. Aujourd'hui, la référence est commune et les scientifiques collaborent quotidiennement de part et d'autre du Rhin. Les données les plus récentes sur les polluants ont été publiées en 1996, mais remontent à 1992. On attend leur actualisation dans les prochains mois. Autre polluant bien connu, les nitrates, d'origine agricole pour une moitié seulement. En orange, ils atteignent jusqu'à 25 mg par litre, c'est le niveau fixé comme guide par l'Union européenne. En rouge, 50 mg ou plus, c'est la norme française. La teneur naturelle moyenne est inférieure à 10 mg. Si l'on sait à peu près aujourd'hui comment prévenir et guérir cette pollution, dont la progression paraît ralentie, on tâtonne davantage pour les pesticides, dont on commence à repérer les dommages. Un ingénieur agronome évoque ses pistes de recherche.
Il y a des pistes qui sont changer les molécules, prendre des molécules qui ont des... qui sont beaucoup moins agressives par rapport à l'environnement, c'est-à-dire qui sont retenues par le sol ou qui sont dégradées très rapidement. On peut aussi utiliser des molécules, c'est ce que font certains fabricants, utiliser des molécules qui sont des molécules qui sont actives à très faible dose, c'est-à-dire qu'on en apporte très peu à la surface du sol, et à ce moment-là, la contamination sera d'autant plus faible.
L'avenir de la nappe dépend de telles recherches sur la prévention, mais aussi des méthodes de dépollution qu'on expérimente, comme celle qui consiste à stabiliser des terrils anciens et à les végétaliser tout en les isolant des précipitations. Restent les inconnues, nombreuses, comme par exemple les effets de certains micropolluants particulièrement toxiques d'origine récente. Mais la meilleure défense à long terme passe par la sensibilisation, celle des agriculteurs, des industriels, des distributeurs d'eau et des aménageurs du territoire.
Nous avons mis un siècle pour polluer cette nappe. On ne peut pas avoir l'espoir qu'en une ou deux décennies, on ait refait et résolvé tout cela. L'important pour le moment, c'est la prise de conscience.
À une échelle très locale, c'est à cette prise de conscience qu'on doit par exemple le nettoyage de cette résurgence de nappe en plein champ, un phénomène assez rare. À l'échelle européenne, aux consommateurs, aux citoyens de jouer, s'ils veulent que leurs enfants puissent eux aussi bénéficier de la manne.
Voilà, vous avez eu droit à quelques paysages de la vallée du Rhin et en même temps un bel accent alsacien d'ailleurs.
Bonjour Madame. Monsieur, est-ce que vous pouvez nous dire brièvement comment on fait pour assainir les eaux en vue de les eaux hospitalières en vue de la dialyse, s'il vous plaît, en quoi ça consiste, s'il vous plaît, très brièvement, merci.
C'est pas une question de l'assainir, c'est une question de la filtrer. Parce que quand vous avez de l'eau prélevée dans la nature, elle est chargée d'un certain nombre d'éléments. Et pour avoir de l'eau ultra pure, notamment pour les dialyses, les systèmes de traitement sont essentiellement les systèmes de traitement par membrane dont je vous avais montré une petite illustration. Donc on traite ces eaux pour qu'elles soient totalement adaptées à l'usage hospitalier. Bien sûr, après le traitement. Bien sûr.
Oui, allez-y.
Tout d'abord, je voulais vous remercier de votre conférence que j'ai trouvée extrêmement intéressante et avec une vue de synthèse rare. Voilà. Et merci. Je voulais vous poser une question concernant la prévention, parce que je suis bien convaincue que ça joue un rôle extrêmement important. Alors, actuellement, je sais que dans l'éducation nationale, il y a un certain nombre d'enseignants qui font de la prévention en informant et en emmenant leurs élèves voir des stations d'épuration et tout ça. Je pense que, bien entendu, il faudrait le développer. Mais nous-mêmes, nous pouvons jouer quand même un rôle important, déjà en étant vigilants par rapport à ce qui se passe dans le monde, mais dans nos propres activités. Est-ce que vous pourriez nous donner des conseils à ce sujet ?
Vous souhaitez que je refasse une conférence, là ?
Du tout, non, mais des choses simples, de l'usage quotidien.
Oui.
Nous savons des choses, mais peut-être pas suffisamment.
Vous avez tout à fait raison. Il m'est arrivé de parler aussi bien à des classes de très jeunes enfants qu'à des personnes dans différents clubs. Je ne vais pas prendre la formule de Tintin de 7 à 77 ans, mais... je crois, la première chose à faire comprendre, enfin, le premier critère, que ce soit pour des enfants ou des adultes, c'est d'abord de dire aux gens d'avoir la curiosité pour s'intéresser non pas à l'eau qui sort du robinet ou du tuyau qui dépasse de quelques centimètres le mur, mais de savoir d'où vient l'eau qui coule à leur robinet. Et je suis toujours très étonné quand je pose la question à des publics du faible pourcentage des personnes qui savent finalement d'où vient l'eau qui coule à leur robinet. Comment voulez-vous dire à quelqu'un qu'il ne faut pas gaspiller, qu'il faut protéger, qu'il faut prendre l'eau comme, non pas comme un produit, hein, parce que les affineurs d'eau nous vendent ça comme un produit, mais de prendre l'eau comme une ressource du milieu naturel. Comment voulez-vous sensibiliser les gens à ces problèmes-là s'ils ignorent complètement d'où vient l'eau du robinet? Et bon, pour avoir lu récemment, je ne sais pas si je l'ai sous la main, mais je l'ai rangé tout à l'heure parce que je ne voulais pas trop vous projeter de transparent, on se rend compte que beaucoup de gens pensent, enfin, mettons, entre 20 et 30% de gens pensent que l'eau est recyclée. Alors le recyclage existe, il n'existe pas chez nous, mais il existe par exemple dans certains habitats, enfin dans les villes japonaises, où finalement l'eau que vous faites couler au niveau des toilettes, on la régénère au fond dans la cave de l'immeuble avec des systèmes membranaires de traitement, etc., et vous la réutilisez dans le même immeuble. Je ne sais pas si nous serions prêts à ce genre de recyclage dans nos demeures à nous. Mais je crois que le fond du problème, c'est que les gens soient avertis de l'origine de l'eau qui coule à leur robinet. Ça, c'est la première chose. Maintenant, pour le reste, je dirais, c'est toute une éducation à faire. Une éducation, mais qui doit... Bon, il faut adapter, bien sûr, le langage à différents niveaux. Mais toujours venir avec cette notion de triangle. C'est peut-être du fait que je suis mécanicien d'origine, et vous savez bien que la base la plus stable, hein, c'est trois pieds. Quand vous avez un tabouret sur trois pieds, il est bien par terre. Quand vous avez quatre pieds, il y en a toujours un qui n'est pas tout à fait par terre. Donc la base de stabilité, c'est le triangle. Le triangle a d'autres significations, mais je ne vais pas me lancer ici dans ces significations-là. Mais de prendre en compte à la fois l'homme et la société humaine, la façon dont l'homme se comporte vis-à-vis d'une ressource naturelle comme l'eau, de prendre en compte l'industrie, donc toute la technologie, si vous voulez, qui est capable, à condition d'avoir les moyens financiers. Alors, nous sommes tous appelés à contribuer, à donner ces moyens. Et de l'autre côté, la nature, qu'il faut aussi faire découvrir aux gens, pour leur montrer que l'eau, ce n'est pas un morceau de rivière, l'eau, ce n'est pas seulement une gravière, l'eau, ce n'est pas uniquement une pluie qui tombe à un endroit donné, mais c'est toute cette notion de l'hydrosystème. Alors, si nous sommes capables à la fois de donner aux gens, quel que soit leur âge, cette image de l'hydrosystème global, et de donner ce mode de conduite, à chaque fois que nous réfléchissons, dans ce secteur-là qui nous concerne ce soir, nous réfléchissons à la fois au comportement humain, au fonctionnement de la nature, et à ce que nous pouvons développer comme activité industrielle, agricole, etc., de production, alors je pense qu'on fera un pas en avant. Mais pour vous donner un tout petit témoignage, il m'est arrivé il n'y a pas si longtemps, dans une commission avec des élus, des techniciens, des chercheurs, d'entendre dire un élu de notre région, c'est quand même dommage que je ne puisse pas dans mon village couper l'atmosphère au-dessus du village en tranches, et je pourrais gérer l'atmosphère au-dessus de mon village. Alors, j'ai dû intervenir. Je dis, mais vous faites ça avec l'eau? Il dit, oui, pour l'eau, je prends le tronçon de rivière quand la rivière arrive sur le banc de ma commune, et puis quand elle quitte le banc de ma commune, et je gère la qualité de ce tronçon de rivière. Je dis, ah non, mais là, avec ça... Vous... Alors, bon, je vais parler d'hydrosystème. Ah, il m'a dit, vous, les chercheurs, vous savez gérer des systèmes. Nous, les politiques, on ne sait pas gérer un système. Mais nous sommes prêts à se mettre tous autour de la table pour gérer des systèmes. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais... Allez-y.
Ça commence aussi par économiser l'eau chez soi, c'est-à-dire ne pas la gaspiller.
Bien sûr.
Voilà.
Bien
et sûr. Donc, j'aurais aimé bien que vous puissiez nous donner quelques conseils tout bêtes, quoi.
Oui, mais bon, vous avez raison. Quand je dis qu'il faut s'intéresser à l'endroit d'où vient l'eau qui coule à votre robinet, bien sûr, dans ma pensée, c'est ne pas laisser couler l'eau du robinet n'importe comment, mais... Je vous fais un aveu. Moi aussi, je ne coupe pas toujours le robinet quand je suis en train de me brosser les dents. Hein, je mets le dentifrice, j'arrête le robinet, je brosse les dents, puis je remets... Moi, je ne le fais pas non plus. Mais à la limite, il faudrait qu'on arrive un jour peut-être à ça. Mais il faut vraiment qu'on fasse des efforts importants dans nos comportements. Mais il y a beaucoup de choses à ne pas gaspiller, remplacer bon, les joints des robinets aujourd'hui. Le système est avec des membranes ou des sièges qui ne permettent plus au robinet de fuir en général. Mais éviter toute fuite, éviter toute perte. Je crois qu'une goutte d'eau pour un certain pays africain, ça a une valeur phénoménale qu'on ne peut pas s'imaginer, nous. Mais c'est une question.
Merci.